Retrouvez-nous 24 heures sur 24 sur l'application RCJ, à télécharger gratuitement sur Apple et Android.
Retrouvez mon nouvel album Night Music disponible sur toutes les plateformes. Night Music, c'est un album de piano solo, enregistré en quelques nuits, qui regroupe de nouvelles versions de mes thèmes de musique de film et des nouveautés. Un album intime, méditatif, amoureux. Night Music, mon nouvel album, c'est pour vous.
RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban.
Une émission proposée avec la Fondation du judaïsme français. 01 53 59 47 47.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans Essentiel. Mon invité aujourd'hui, Georges Salinas, pour son dernier roman, Polar, Par le Verbe, Par le Glaive, aux éditions Mareuil Éditions. Georges Salinas, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir à nouveau.
Mais merci d'être fidèle à RCJ. Georges, on vous avait reçu pour vos précédents ouvrages. Il y avait Le Chat d'Oran en 2019, Le Murmure des Armes Perdues en 2022. À l'époque, vous étiez l'un des patrons de la BRI depuis 2 ans maintenant, 3 ans, vous êtes le chef de la sécurité du président de la République, le fameux groupement de sécurité du président de la République, le GSPR. Ce livre, Georges Salinas, c'est peu de dire que j'ai dévoré hier soir comme les 2 premiers, c'est peu de dire qu'il est d'actualité. Alors forcément, quand on parle de terrorisme, malheureusement en France depuis une dizaine d'années, depuis longtemps, mais encore plus depuis une dizaine d'années, forcément on est dans l'actualité, mais là j'ai envie de dire encore plus parce que il y a toute une partie du livre qui se passe au Bataclan, que vous avez vécu et dont vous parlez, et puis toute une autre partie du livre qui se passe au Liban, et là c'est peu de dire effectivement qu'on est complètement dans l'actualité. D'abord, Georges Salinas, est-ce que vous aviez déjà en tête la trilogie quand vous avez commencé à écrire Le Chat d'Oran ?
Alors, au départ, non. Alors, juste une petite précision, ça fait 3 ans que je suis directeur, et ça fait 5 ans que je protège le président avec le GSPR. C'était juste une petite précision. Votre question, donc, sur la trilogie, effectivement, sur le premier livre, au départ, je me lance dans l'écriture parce que c'était quelque chose que j'avais, je pense, en moi. Et j'avais envie de rendre un hommage aussi à mon père qui avait vécu, en gros, les mêmes problèmes, les mêmes horreurs aussi que ce que moi j'ai vécu après en 2015 au moment des attentats.
Oui, votre père en Algérie.
Exactement. Donc j'ai fait un peu le parallèle, je me suis souvenu de ce qu'il me racontait, de ce qu'il me disait, et finalement je me suis dit, quelque part, ça ressemble quand même beaucoup à ce que moi je vis, au niveau du pays, mais aussi au niveau de sa famille directement, parce qu'on est complètement touché, au niveau de son travail, et quelque part, j'avais envie donc de faire un peu ce parallèle, dans un premier temps pour lui rendre hommage, et puis l'envie d'écriture est venue pour continuer, pour poursuivre. Et c'est comme ça que j'ai eu envie d'écrire cette trilogie qui raconte en fait l'histoire du père et ensuite du fils.
Et peut-être même un petit peu plus loin dans le livre et dans la saga familiale, mais ça vous le saurez en lisant le livre. Par le verbe, par le glaive, c'est une devise.
C'est une devise qui est connue. C'est une devise d'ailleurs qui est très d'actualité puisque ce sont bientôt les 60 ans de la BRI.
Et oui, j'ai reçu le livre dessus.
Exactement. Donc c'est la devise du service. C'est une devise qui représente bien le service puisque par le verbe, c'est ce qu'on doit, on se doit obligé de faire au départ.
Parler d'abord la négociation.
Et ensuite, quand tout est impossible, et bien on doit se défendre, et là on doit sortir le glaive.
Alors, c'est ce que vous dites dans la préface, Georges Salinas. Vous dites, il y a quelques années, à la mort de mon père, puis lorsque j'ai subi des événements dramatiques professionnels, mon désir d'écriture et raconter la vie d'un policier est devenu une évidence claire. Le verbe et le glaive sont les armes de la BRI et correspondent à la philosophie de son métier. Est-ce qu'il y a, je pose une question un peu compliquée dès le début, après on va rentrer dans le cœur du livre, est-ce que face au terrorisme, il peut y avoir vraiment du verbe ?
Alors, je pense qu'il faut, obligatoirement avoir du verbe. La négociation, elle doit toujours être mise en place dans des situations les plus compliquées, les plus dures, les plus dramatiques. On a toujours tenté d'avoir une négociation pendant les attentats, que ce soit sur les attentats qu'on a eu à Hypercacher ou par exemple ou au Bataclan. On a toujours eu le souci de tenter une négociation. Mmh. Parce que on est un pays démocrate, avec des règles de la République, et on n'est pas des assassins. On est là pour protéger la République, et notre travail, c'est d'abord d'essayer d'arrêter des gens, et c'est ensuite, quand on ne peut plus rien faire, qu'on passe à l'action.
À l'action, surtout quand il y a des otages, et vous en parlez, et pour l'hypercacher, et pour le Bataclan, parce que c'est vrai que le Bataclan, on a moins parlé de ce moment-là. Alors, c'est un roman, on est d'accord, Georges, mais on va dire qu'il y a quand même beaucoup de faits inspirés de la réalité, on va dire ça comme ça.
C'est un roman inspiré, tout à
voilà,
fait.
Voilà, c'est un roman très, très inspiré. J'ai la chance de vous connaître un peu, donc il y a des épisodes dont il me semble qu'effectivement, vous avez déjà raconté dans la vraie vie. Mais effectivement, un roman très, très inspiré. Alors, notre héros de ce livre s'appelle François, François de la Rocha. Il est chef de la BRI et nous sommes le 13 novembre 2015. Et le livre va être composé finalement de beaucoup d'allers-retours dans le temps, avec certains moments effectivement où on va revenir sur le père du héros et puis d'autres moments dans la vie du héros ou dans la vie de personnages secondaires qui peu à peu vont le devenir de moins en moins secondaires.
Oui, c'est exactement ça. La première partie, je dirais que c'est presque un roman choral.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a un nombre de personnes de destins qui vont se croiser. Et je trouvais intéressant de montrer ce destin des uns et des autres. Alors, il y a les policiers, il y a les gens qui sont là, il y a les victimes, il y aura les blessés. Et puis il y a aussi les terroristes, et je voulais montrer aussi cette facette, essayer, en tout cas tenter d'expliquer le pourquoi, le comment de ce genre d'opération, pourquoi ils en arrivent là aussi, alors humblement, avec mon expérience, et donc je voulais vraiment démontrer ces interactions qu'il y a, dans cette soirée funeste.
Alors pourquoi effectivement, on va le comprendre, mais on le sait, au fur et à mesure, il y a tout cet endoctrinement du terrorisme islamique, aussi bien en France qu'à l'étranger. Et dans le prologue, vous citez Les Justes, et donc Albert Camus, « Mourir pour l'idée, c'est la seule façon d'être à la hauteur de l'idée, c'est la justification. » Camus, c'est votre, c'est un de vos auteurs préférés, favoris ?
Oui, tout à fait.
On va pas dire le contraire ici.
Non,
hein,
on m'a posé il y a quelque temps la question sur la culture pied-noire. On me disait, vous aimez quoi sur la culture pied-noire, le couscous, la paella, et bien sûr, j'adore ça, mais j'aime aussi la culture. La vraie, enfin la culture, je ne dis
la
pas que la culture cuisinière,
ouais.
Voilà, la littérature est importante, et je suis aussi bercé par des gens comme Albert Camus.
Alors, clairement, et cette phrase « mourir pour l'idée, c'est la seule façon d'être à la hauteur de l'idée ». Est-ce que c'est pour ça qu'on devient flic, ou en tout cas que certains deviennent flics, Georges Salinas ?
On devient flic.
Pas pour mourir, évidemment, mais pour avoir l'idée, la défense de l'idée, la hauteur de l'idée au-dessus de tout.
Le malheur dans cette phrase, c'est que quand on est sûr de ses convictions, on peut être amené justement à faire des extrémités. Donc on a les policiers qui effectivement sont engagés et sont prêts à défendre la République pour des idées, mais on a en face des gens qui croient en tout cas dans leurs idées que tout est possible parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Mmh. Et c'est comme ça qu'on peut avoir aussi des comportements extrémistes et des terroristes.
Alors notre héros, François de La Rocha, quand le livre démarre, il arrive, en tout cas, il est à la BRI, celle que les journalistes appellent l'anti-gang. Il arrive, il est évidemment très fier de cela, il pense à son père, et le 13 novembre 2015, on le retrouve sur l'autoroute, il revient en vitesse, effectivement, c'est peu de le dire, en vitesse, de sa maison de campagne, avec sa femme, qui va le déposer vite fait à la maison pour filer, au cœur de l'action, c'est-à-dire au Bataclan.
Oui. Le premier livre, Le Chat d'Oran, finit sur le Bataclan, c'est-à-dire le commencement du Bataclan, le déclenchement, je dirais, du Bataclan. Et là, on revient sur la fin du premier livre. Entre-temps, il y a eu des aventures, puisqu'il y a eu le deuxième. Oui. Mais on est sur le moment, en fait, où le Bataclan se déclenche. Je me suis inspiré de ce que j'ai vécu aussi, puisque c'était quand même un roman inspiré. Je m'inspire aussi de beaucoup de choses, des gens avec qui j'ai travaillé, des gens que j'ai fréquentés, des amis. Et donc, je démarre cette action à ce moment-là, c'est-à-dire comment un policier qui se trouve dans un endroit très calme pour passer un week-end en famille se retrouve à un moment ou à un autre en enfer.
En enfer, et alors qu'il aurait pu, dans l'absolu, ne pas y être. Mais bien évidemment, sa femme lui dit au début du livre, tu avais la chance d'être en dehors de l'enfer, maintenant tu fonces pour y entrer. Il répond, mon cœur, je n'ai pas le choix. Qui va y aller sinon ?
C'est la devise, je dirais, du service.
Ouais.
Les policiers sont dans l'engagement. Les policiers, les gendarmes, enfin les forces de l'ordre sont dans l'engagement. Et il est évident que quand on a un drame qui se noue, notre engagement, c'est d'y aller, puisque c'est notre mission. Et on n'a pas le choix.
Vous avez été formé pour ça. Ça fait des années, souvent, où vous-même ou les autres policiers sont formés
bien
pour
sûr.
Ce moment-là.
Alors chacun a une formation à un certain niveau. Il y a des formations spécialisées. Et quand on est dans les services d'élite, ils sont d'élite surtout parce qu'ils se sont beaucoup entraînés, qu'ils se sont travaillés ce type d'action. Ça ne veut pas dire que les autres policiers ne peuvent pas intervenir. D'ailleurs, ça a beaucoup évolué au niveau de l'intervention et des premières interventions à faire en direct, puisque maintenant les policiers, même dans les simples patrouilles, sont beaucoup mieux équipés et peuvent intervenir. Mmh. Et on a d'ailleurs la majorité des interventions font par des polices secours.
Oui, par ce qu'on appelle les primo-intervenants. Et en l'occurrence au Bataclan, effectivement, c'était eux, et vous le rappelez dans le livre. Alors il va arriver effectivement au Bataclan, et ce que vous racontez, c'est l'enfer que vous avez vécu, vous, les hommes de la BRI, les autres policiers, ceux qui étaient présents dans ce Bataclan. On a lu aussi beaucoup de choses, beaucoup de témoignages de survivants, de rescapés. Mais évidemment, vous l'abordez différemment. Est-ce que le fait de raconter, on est quasiment 10 ans après maintenant, le fait de raconter 10 ans après, les souvenirs sont les mêmes, ou il y a certaines choses que vous écrivez différemment aujourd'hui que si vous aviez écrit dans les jours suivants le Bataclan?
J'ai l'habitude de dire qu'on n'oublie pas. Mmh. Donc on a des souvenirs qui restent très présents. D'ailleurs, quand on est tous ressortis du Bataclan, on a quelque part, on a tous un peu changé. On voyait les choses sûrement différemment. J'avais envie de montrer les destins. Alors ce sont des destins romancés, puisque c'est un roman.
Oui. Hein,
donc je crée des histoires, mais qui sont basées sur... effectivement des histoires qui sont parfois vraies. Après, mon imagination fait que je crée des personnages, mais on se rapproche en tout cas de l'ambiance.
Oui, on se rapproche très clairement de l'ambiance et ce qui s'est passé. Alors, à l'intérieur du Bataclan, il y a les premiers coups de feu. Certains comprennent très vite, d'autres ne comprennent pas. Il y a ceux qui sont tués, il y a ceux qui sont blessés très grièvement et qui vont mourir malheureusement au fur et à mesure des minutes et des heures passées dans ce Bataclan. Et puis, il y a ceux qui vont réussir à se cacher. Et dans cela, il y a la fille de notre héros. Mais qu'est-ce qu'elle faisait là ?
Elle était trop indépendante, à mon avis.
Ouais.
Et elle est allée voir un concert en cachette, sans la permission de ses parents. Et elle se retrouve dans cet enfer. Et sa jeunesse a fait que... Bon, elle est allée à un endroit, mais il est normal qu'en fait, quand on est jeune, qu'on fasse aussi des choses qui sont parfois un peu, enfin pas autorisées par les parents, je dirais. C'est pas des choses interdites, mais des choses qui sont pas autorisées, je dirais. Et puis elle est là, et heureusement finalement que elle a une famille qui l'a déjà formée.
Qui l'a déjà formée, comme on devrait quasiment tous les former, ou en tout cas savoir. Alors vous allez dire si je me trompe, peut-être que j'ai des bêtises, Georges, mais que normalement quand on est confronté à une situation comme ça d'attentat, il y a trois choses à faire dans l'ordre, c'est fuir, se cacher ou combattre si malheureusement on n'a pas le choix. C'est dans l'ordre,
C'est le bon ordre.
C'est le bon ordre, d'accord. Donc d'abord on fuit, on essaie de fuir en tout cas. Si on peut pas fuir, on se cache. Et si on peut pas, on combat. Mais enfin bon, là c'est vraiment pas pour tout le monde, c'est peu de le dire. Donc elle, eh bien elle va suivre ce que lui a indiqué son père. Elle va fuir, elle va se cacher. Et là on revient peut-être à la réalité. Georges Salinas, est-ce que vous saviez quand vous êtes rentré dans le Bataclan avec vos hommes, avec la fameuse colonne de la BRI, qu'il y avait des survivants qui étaient cachés comme ça dans différents endroits du Bataclan?
On se doutait qu'il y avait des survivants. De toute façon, quand on est arrivé, on avait déjà tous les gens qui étaient dans la fosse. Il y avait énormément de gens couchés les uns sur les autres, qui n'étaient pas blessés, qui s'étaient simplement couchés pour se protéger. Et c'est d'ailleurs la première évacuation que l'on fait, c'est celle de la fosse, dans des conditions qui sont pas toujours facile, puisque on sait très bien qu'on peut avoir des terroristes qui se sont mêlés aux otages ou aux personnes, en tout cas, qui étaient là. Donc, il faut faire ça en toute sécurité. Et après, dans l'intervention elle-même, très rapidement, on comprend qu'il y a des otages, puisque on détecte les terroristes. Et puis, on trouve aussi des gens qui donnent des signes de vie. Parce qu'on a beaucoup de gens qui envoient des SMS, qui téléphonent à leur famille. Et donc, on comprend très, très rapidement qu'on a des gens qui sont éparpillés un peu partout, qui se sont cachés quand ils n'ont pas pu se sauver, tout simplement.
C'est ce qui fait la différence aussi, Georges Salinas, avec des prises d'otages parfois il y a des années, même si la France n'avait jamais vécu quelque chose comme le Bataclan. C'est aussi le fait qu'effectivement, eh bien, tout le monde a des téléphones, ou presque, et les utilise, et pour prévenir la police, ou pour malheureusement envoyer des messages à leurs proches.
Oui, c'est un mode d'utilisation qui se fait, qui avait déjà d'ailleurs été utilisé à Hypercacher, puisqu'on avait des contacts avec les gens qui étaient dans Hypercacher, qui envoyaient des SMS et qui nous ont donné d'ailleurs des renseignements pour certains vitaux. Donc, c'est un moyen de communication. Alors, ça peut être aussi un danger important, on le sait, puisque les gens qui avaient des téléphones qui sonnaient risquaient leur vie. Mais quand on a la possibilité de le faire et qu'on est bien caché, c'est un moyen de communication qui peut être très important. Alors, beaucoup d'informations arrivent à ce moment-là, et on a des gens pour trier, pour essayer d'avoir un peu de cohérence dans l'intervention.
Alors notre héros François de La Rocha est donc au Bataclan avec ses hommes, ils vont pénétrer dans le Bataclan. Il est un peu tendu, alors c'est sûr qu'on le serait à moins, mais effectivement à un moment donné, certains lui disent « Bah patron, les gars vont aussi vite qu'ils le peuvent, je crois que la situation est assez exceptionnelle » et François le coupe, il dit « Une seule seconde suffit pour sauver une vie, avec ce genre d'attaque, on perd des innocents toutes les minutes. »
Oui, alors ça fait référence un peu à autant, je dirais, d'intervention, c'est important. Et même si on doit faire des choses très vite, il faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc, il faut travailler sur un temps d'intervention où il faut traiter l'urgence, et puis il y a le temps après pour traiter vraiment l'affaire. C'est ce qu'on appelle une espèce d'assaut élaboré qu'on va préparer. Mais ça ne veut pas dire que il faut pas travailler dans l'urgence. Et ça, faut le savoir le faire. Il se trouve que dans le service où j'étais, on a toujours su travailler dans l'urgence. C'était un peu notre quotidien, savoir s'adapter. Donc, c'est le plus important, c'est quand on est bien entraîné, on sait ce qu'on a à faire, et on a des process qui font que les gens se mettent en ordre de marche très très rapidement. Et ça, c'est important.
Ça veut dire, Georges Salinas, que tous les scénarios, ou presque, sont dans la tête des hommes de la BRI, et qu'il n'y a qu'à, entre guillemets, bien sûr, se dire « bon, bah, ça c'est le scénario B, on applique ce qui était prévu pour le scénario B », ou ça veut dire aussi que quand on est face à un scénario comme le Bataclan, qui avait peut-être été prévu, mais qui était néanmoins nouveau sur le sol français, en même temps que cela a lieu, il faut créer un nouveau scénario ou réfléchir à comment réagir.
Bien sûr, on a des plans, d'action qui sont préparés. D'ailleurs, on a des bases hein, pour justement intervenir le plus rapidement possible et gagner du temps sur les endroits où on va. Mais après, avoir un plan, c'est bien. Mais si vous restez complètement strict et rigide dans votre planification, vous risquez de vous planter largement. Donc, on sait très bien que on a des plans. Ils sont là pour nous aider, mais après, sur le terrain, c'est autre chose.
Alors, à un moment donné, effectivement, ils sont à l'intérieur, mais notre héros, c'est donc qui est sa fille, qui est à l'intérieur, et il y a un échange comme ça avec un docteur, avec un autre des personnages. Je lui dis, tu peux pas sauver la vie de tout le monde, et à un moment donné, effectivement, notre héros doit, dit-il, se vider de ses émotions pour se concentrer. Comment est-ce qu'on fait justement pour se vider de ses émotions? Je vous demande pas si dans la réalité votre fille était réellement dans le Bataclan, Georges, mais en tout cas notre héros, sa fille y est. Comment est-ce qu'on fait justement pour être complètement concentré sur l'action, même si on a eu la préparation?
Alors la préparation, quand même.
Bon d'accord, ok. La prépa.
Non, c'est important. Après, les gens sont formés. D'abord, ils ont été triés sur le volet.
Oui. C'est les unités. Quand on dit unité d'élite, c'est vraiment élite d'élite.
C'est exact. C'est pas un traitement normal. Les gens sont préparés physiquement, techniquement et mentalement. Quelque part, ils sont tous à un moment ou à un autre prêts à réagir à ce type d'intervention. Alors après, quand on est confronté directement, on peut être saisi par l'émotion. Mmh. Et notre professionnalisme, eh ben c'est là où il intervient. On sait qu'on peut perdre parfois un petit peu de moyens quand on est touché par l'émotion.
Vous n'êtes pas des machines.
On n'est pas des machines. Ouais. Et notre travail, c'est d'essayer de le devenir, de garder en tout cas un traitement complètement professionnel. Un peu comme un chirurgien qui opère et qui ne va pas se poser la question si c'est une jeune fille ou un enfant. Il ne doit pas être dépassé par ses émotions. Et pour pouvoir être efficace, il faut éliminer tout ce qui nous parasite pour ne pas tomber dans l'inefficacité. Et je dirais que le paramètre le plus important, c'est l'émotion familiale, oui. L'émotion de la vue. Donc moi je reconnais et je m'en excuse d'ailleurs souvent pendant toute cette opération j'ai enjambé des morts sans me préoccuper du tout de leur état. J'avais les chaussures pleines de sang. La plupart de tous les opérateurs qui étaient avec moi ont fait exactement la même chose, ouais. Parce qu'on était concentrés sur l'émission qui était de sauver les otages vivants parce qu'on pouvait plus rien faire pour les morts. Et puis neutraliser les terroristes. Et ça, pour pouvoir le faire, il faut garder entièrement sa conscience professionnelle et ne pas se faire parasiter par autre chose.
Il faut être effectivement plus que concentré. On va continuer à parler de votre livre, Georges Salinas, par le verbe, par le glaive. C'est aux éditions Mareuil. Il y a un film important qui sort aujourd'hui. Je suis sûre que vous aimez Charles Aznavour. Quelqu'un, oui. Comme quoi, là, j'étais sûre, on a des gens comme ça. C'est Monsieur Aznavour, le film qui sort aujourd'hui. Et on va l'écouter tout de suite avec Je me voyais déjà et on se retrouve juste après.
À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se pendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage. Mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge. Mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y croise encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé, je n'ai pas eu de veine, mais au fond de moi, je suis sûr au moins que j'ai du talent. Mon complet bleu, il y a 30 ans que je le porte, et mes chansons ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte à porte, pour subsister, je fais n'importe quoi. Je n'ai connu que des succès faciles, des trains de nuit et des filles à soldats. Les minables cachets, les valises à porter, les petits meublés et les maigres repas. Je me voyais déjà en photographie, au bras d'une star, l'hiver dans la neige, l'été au soleil. Je me voyais déjà racontant ma vie, l'air désabusé à des débutants friands de conseils. J'ouvrais calmement les soirs de première, mis le télégramme de ce tout Paris qui nous fait si peur. Et mourant de trac devant ce parterre, entré sur la scène sous les ovations et les projecteurs. J'ai tout essayé pourtant pour sortir du nombre. J'ai chanté l'amour, j'ai fait du comique et de la fantaisie. Si tout a raté pour moi, si je suis dans l'ombre, ce n'est pas ma faute mais celle du public qui n'a rien compris. On ne m'a jamais accordé ma chance. D'autres ont réussi avec peu de voix et beaucoup d'argent. Moi j'étais trop pur ou trop en avance. Mais un jour viendra, je leur montrerai que j'ai du talent.
Vous voyez déjà Charles Aznavour sur RCJ, mon invité ce matin, Georges Chalinas. On parle de son polar Par le Verbe, Par le Glaive, aux éditions Marais Éditions. Georges Chalinas, ancien patron de la BRI et aujourd'hui directeur de la sécurité du président de la République. Juste sur la chanson, Georges Chalinas, est-ce qu'on se voit déjà quand on rentre jeune policier, comme ça a été votre cas, est-ce qu'on se voyait un jour patron de la BRI et chef du GSPR? C'est pas rien quand même. Est-ce qu'on s'y voyait? Est-ce qu'on voulait s'y voir? Ou est-ce que vous, votre but, c'était d'être dans la police? Et puis, voilà.
Je crois que mon but, d'abord, c'était vraiment d'être dans la police. Alors, je n'avais pas de six autres ambitions. Mmh. Moi, j'étais entré dans la police parce que j'adorais. J'ai été bercé par d'abord ce que me racontait mon père. Mon frère aussi était dans la police.
Ah, votre frère aussi, ouais.
Donc, c'est vraiment une histoire familiale. Après, on est influencé quand on est jeune par tout ce qu'on voit à la télévision, les feuilletons qui nous donnent envie de rentrer à un moment ou à un autre, aller faire comme les héros de ces séries bien connues comme Starsky et Hutch.
Ah, vous étiez Starsky et Hutch, voilà. Fabuleux, évidemment.
Mais on n'imagine pas, et c'est peut-être un peu mon grand regret, puisque mes parents ont disparu, mon grand regret, ce serait que mon père n'ait pas vu un peu là où j'ai réussi à être maintenant.
Non, mais je suis sûre que là où il est, il a vu. Et puis effectivement, c'est une dynastie familiale, comme souvent chez les grands flics. Alors, il y a toute une partie aussi, je l'ai dit, Georges Chalinas, avec des allers-retours et avec bien des jeunes qui vont se retrouver, certains du bon côté de la barrière et d'autres du mauvais côté de la barrière. Et ils sont tous originaires d'une ville, en l'occurrence de Sevran.
Oui, tout à fait. Donc, ça montre. Enfin, ce que je voulais montrer peut-être, c'était que parfois on stigmatise un petit peu les cités, certains départements, en pensant qu'il n'y a plus rien à faire. Et je crois qu'on se trompe. J'y ai énormément travaillé,
oui.
Et j'ai rencontré toutes sortes de personnes. Alors effectivement, on a parfois plus de voyoucratie, plus de trafic. C'est un chemin parfois difficile dans ces endroits-là, mais il y a énormément aussi de gens qui œuvrent pour que ces endroits soient des endroits aussi de paix où on puisse vivre normalement, et j'en ai croisé plein, et donc c'est pour ça que aussi je voulais montrer que cet aspect-là.
avec ces jeunes donc de Sevran, dont certains vont vouloir effectivement s'investir et rentrer dans la police. Vous en avez beaucoup, j'imagine, connu vous aussi dans votre carrière que vous avez formé.
Dans la police, il y a vraiment de tout. On a des gens qui viennent de tout milieu, mais qui embrassent cette carrière parce que c'est une carrière que je considère pour moi à part, où il faut vraiment de l'engagement. Et donc, quelque part, je trouve ça, ce melting pot des social est extraordinaire. On a des gens de toutes origines. Et quand on rentre dans la police, on a tous le même uniforme, un peu comme les militaires.
Oui.
Et on est là pour...
On ne sait pas qui est qui et qui vient d'où.
Et on œuvre pour la même chose.
Alors, Georges Chalinas, et par le verbe, par le glaive, avec ces jeunes de banlieue, on se rend bien compte aussi, même si on le sait, que tout cela est extrêmement lié à savoir la drogue, le commerce de la drogue et effectivement l'emprise de plus en plus importante des islamistes dans les banlieues sur les jeunes. Et vous en parlez à plusieurs reprises dans le livre.
Oui. Alors la drogue, c'est le deuxième effet, c'est l'effet qui se coule, je dirais, puisque on sait que c'est un moyen de financement. Et concernant l'islamisme, on sait que quand on a affaire à des jeunes qui sont en mal de repère, eux leur proposent une vision des choses qui parfois peuvent les séduire parce que quelque part ils ont l'impression d'être délaissés. Et là, on a affaire à des gens qui vont leur faire croire qu'ils deviennent beaucoup plus importants que les autres et qu'ils ont une vraie mission. Et à partir de là, vous arrivez à les déformer. Donc j'ai été surpris par moments par des cas de jeunes qui n'étaient pas des gens stupides. Mm-hmm. Je me souviens, je vais faire une petite aparté, sur une opération que j'avais fait il y a quelques années où je suis rentré, on a interpellé sur un couple qui était, dont le mari était un islamiste, et qui était en réseau. Et quand je suis rentré, quand on l'a interpellé, on est rentré dans son domicile. Son domicile était, c'était en 93, mais son appartement était nickel. C'est-à-dire que tout était rangé, tout le monde était, c'était pas du tout un laisser-aller. J'ai vu la chambre des enfants.
Oui.
La chambre des enfants, les enfants étaient bien habillés, sérieux, et les enfants étaient très calmes. Et donc, on a écarté assez rapidement les enfants, en leur disant, les enfants, allez dans votre chambre. Mmh. Et on a quand même fouillé la chambre, malgré tout, parce que par sécurité, il faut quand même être sûr qu'il n'y a pas de danger. Donc on a trouvé à ce moment-là des cartes, et c'était des cartes à jouer, où il y avait marqué « quand tu gagnes, tu coupes la tête à un mécréant, quand tu as bien joué, tu gagnes 3 Kalachnikovs ». Et donc j'ai regardé les enfants, et je leur ai dit « mais vous jouez avec qui ?» Et alors, on jouait avec mes parents, parfois le soir, et donc ça m'a fait peur. Parce que les enfants n'étaient pas idiots. Et en plus, le gamin, en partant, à un moment, m'a dit, il s'inquiétait parce qu'il voulait aller à l'école. Parce qu'il disait, moi, j'ai bientôt cours et on a des examens. Et je veux pas arrêter l'école. Est-ce que je pourrais partir? Donc, on avait des enfants qui s'exprimaient très, très bien. Mmh. Et quelque part, quand on voit ça, on peut se poser quand même des questions sur le degré d'embrigadement de ces enfants.
Ouais, et sur la taquia, et sur le lavage de cerveau. Je voulais vous faire écouter quelque chose, Georges Chalinas, parce que dans le livre, effectivement, à un moment donné, notre héros, François, quand il apprend qu'il y a sa fille à l'intérieur du Bataclan, dit à Mathieu, qui est avec lui, qui est jeune, il ne faut rien changer au plan, on doit sauver tout le monde. J'ai reçu il n'y a pas longtemps Amir Tibon, qui est un journaliste israélien, qui était dans un des kibbutz ce 7 octobre, et qui a écrit un livre remarquable qui s'appelle Les Portes de Gaza, que je vous conseille, et qui a été caché pendant quasiment 24 heures avec sa femme dans l'abri et avec ses deux bébés. Et il se trouve que son père est un peu votre équivalent en Israël, c'est le général Tibon, qui est quelqu'un de très connu dans le pays, et au moment où son père va apprendre ce qui se passe. Il va au quartier général de l'armée. Il voit que là, il peut peut-être pas aider beaucoup. Et puis, il sait que son fils est dans ce kibboutz, c'est qu'il y a des terroristes à l'intérieur du kibboutz. Donc, il va prendre sa voiture. Il va descendre dans le sud. Et au fur et à mesure du chemin, je vous laisse écouter cet extrait. Et je voudrais que vous réagissiez ensuite. Votre père est très connu en Israël, c'est un général de division de l'armée israélienne. Il fait évidemment, ce qu'aurait fait la plupart des parents tel cas, sauf que lui, effectivement, c'était général de division. Donc, ils prennent une voiture, ils partent avec votre mère et ils prennent la direction du sud. Et l'épopée, son épopée que vous racontez dans le livre, je ne veux pas tout raconter, mais c'est, il vous a sauvé, vous et votre famille. Il a sauvé aussi d'autres gens sur le chemin. Il a confié les blessés à votre mère qui allait remonter. Et il a choisi parfois aussi, il a fait des choix extrêmement difficiles parce qu'à un moment donné, il doit quasiment choisir entre le fait de prendre un peu de retard pour aller vous sauver, vous, son fils et ses petites filles qu'il adore. Et d'aller sauver un autre soldat.
C'est une question de valeur.
Le dilemme,
arriver au plus vite vers nous et ne pas voir les autres gens en route, ou alors s'arrêter, aider quelqu'un qui a besoin d'aide sur la route, eh bien c'est une question de valeur. Et mes parents sont des personnes qui ont dévoué leur vie à l'État d'Israël. Mon père a servi pendant une trentaine d'années à l'armée. La plupart de ses rôles à l'armée étaient des rôles de combattants. Ma mère est une enseignante, elle a dirigé une école autrefois. Elle a toujours préféré les postes dans ce qu'on appelle les écoles difficiles. Des écoles qui avaient besoin d'une directrice forte. Et jusqu'à aujourd'hui, je rencontre à travers tout le pays des gens qui me disent « Ah, j'ai été élève de ta maman, elle m'a sauvé. »
Voilà, les témoignages d'Amir Thibone. J'imagine que ça vous parle, Georges Chalinas.
Bien sûr que ça me parle. Je crois que les valeurs dont il parle, ce qu'il cite, c'est des choses qui nous sont communes. On est tous tiraillés par justement ce qu'on disait tout à l'heure, essayer d'évacuer le personnel pour travailler sur le professionnel. Et après, on a aussi des missions, et à un moment ou à un autre, on est confronté, et on peut être confronté, est-ce que la mission est plus importante que sa famille? Et donc là, c'est un vrai dilemme de valeur sur lequel nous, en tant que policiers, on a été formés, et on doit faire des choix difficiles, des choix qu'on peut comprendre d'ailleurs si on faisait l'inverse, c'est-à-dire que si on choisit sa famille,
oui, on aurait parfaitement compris.
Voilà, je vais pas jeter mon opprobre là-dessus, parce que quand on touche à la chair de sa chair, on peut pas avoir la même réaction. Et je crois que le plus important, c'est que on est quand même malgré tout. On sait ce qu'on a à faire, on a une mission et on a quelque chose parfois qui est au-dessus. Et à un moment ou à un autre, et c'est la grandeur peut-être de l'homme, de pouvoir l'assumer malgré tout, malgré le risque du sacrifice.
La grandeur de l'homme par rapport effectivement à la bassesse et aux horreurs en même temps et du Bataclan et du 7 octobre en Israël. Alors il y a toute une deuxième partie dans le livre, Georges Chalinas. Je laisse nos auditeurs aussi découvrir tout ce qui se passe à l'intérieur du Bataclan et que vous racontez. La deuxième partie, là aussi elle est quand même un petit peu inspirée de votre vie, on ne peut pas dire le contraire, puisque notre héros François va devenir l'un des membres importants, les directeurs du service de protection, le SDLP, qui ressemble au GESPR ou c'est la même chose?
C'est le GESPR, c'est une entité,
voilà, c'est
l'entité du SDLP.
Du SDLP. Donc, il va protéger le président de la République. Alors, on ne sait pas qui est ce président, même s'il est jeune. Il y a donc toute une partie de l'action qui va se passer au Liban. dont on parle effectivement beaucoup en ce moment. Je ne vais pas vous poser de questions politiques, genre, je sais qu'il y a le devoir de réserve, donc je ne vous la poserai pas, on ne poserait pas, on va rester sur le livre. Mais effectivement, le livre se pose, enfin, l'histoire se déroule en 2020, donc quelques temps après aussi l'explosion du port de Beyrouth. Et on se retrouve là aussi dans un Liban déchiré, sous la coupe du mouvement terroriste du Hezbollah. Et notre héros va devoir faire face à des tentatives d'attentats et des tentatives de déstabilisation, voire d'assassinat du président.
En fait, ce que je voulais démontrer, c'est qu'on a, dans une première partie, je dirais, on a des attentats de masse. Là, on a des attentats institutionnels en vue de déstabiliser un pays. Et je pense que c'est le deuxième grand danger qu'on peut avoir donc, pour un État. Et s'attaquer à l'institution suprême, qui est le président de la République, c'est pour moi un des dangers les plus importants. D'où l'importance de se prémunir pour ne pas avoir ce genre de choses. Donc, ce que je voulais démontrer, c'est que quelque part, quand on est à un moment ou à un autre dans un président et qu'on est à cette institution-là, ben, on a des risques. Et nous, mon travail, c'est de travailler aussi sur les scénarios du pire, c'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui pourrait lui arriver pour pouvoir justement les empêcher. Et quelque part, bon, ça m'inspire. Et c'est comme ça qu'en allant au Liban, vu la situation, puisque je m'inspire quand même de faits réels
à chaque fois,
pour pouvoir. Ce sont des faits réels et après je crée des histoires autour, mais malgré tout les faits existent et donc moi ça me permet de voir les dangers potentiels et de créer des histoires qui sont des scénarios du pire.
Oui, scénarios du pire, clairement. Alors, c'est un polar, donc on ne va pas révéler tout ce qui se passe dans cette partie-là, mais effectivement, on est sur les scénarios du pire. Et à un moment donné, notre héros, François, il se souvient alors d'écrit de l'Ayatollah Khomeini sur le djihad musulman. Pour lui, les guerres lancées par les chrétiens n'avaient qu'un but, promouvoir la luxure et le plaisir bestial. L'homme qui promulgua la première république islamique justifiait de rayer un pays de la carte parce que l'islam devait conquérir le monde et que cette conquête amènerait le salut éternel. Le pays qui veut rayer de la carte, on sait, hein, c'est Israël, c'est pas nouveau, hein, ça date il y a un petit moment, puis ça continue, hein, ça ne change pas, clairement. Dans ce Beyrouth très, très compliqué, vous dites aussi de toutes les manières très clairement les choses, genre j'essaye de ne pas tomber dans le politique. Vous dites clairement les choses sur le Hezbollah, sur le terrorisme, sur le djihadisme et sur l'embrigadement aussi de certains Français qu'on va retrouver là-bas.
Oui, c'est des choses qu'on constate. Je veux dire, sans entrer dans la polémique, donc en plus, c'est peut-être pas la période non plus d'en parler.
On est d'accord.
Mais il est clair que quand on fait un constat simplement objectif, on sait qu'on a des factions dans ce pays qui sont radicalisées et qui sont capables de tout, on le constate tous les jours, et c'est pour ça que j'ai eu envie à un moment ou à un autre, sans dévoiler l'histoire, d'écrire un peu, faire une espèce de constat, je dirais, de la situation. Sans prendre parti, j'essaie de ne pas prendre parti toujours, j'essaie d'être un peu au-dessus, mais malgré tout, je veux dire,
après là, le lecteur décidera. Là, en fait, il n'y a pas à prendre parti. Là, voilà. Là, il y a des mouvements. Voilà, et vous le dites clairement, c'est les mouvements terroristes, c'est le djihadisme. On n'est pas sur du parti. Et vous faites un lien aussi. Alors, je ne vais pas dire comment, pareil, pour préserver le suspense, mais à un moment donné aussi, il est fait référence au terrorisme de l'extrême gauche et de certains mouvements d'extrême gauche qui se retrouvent, tiens, comme par hasard, effectivement, avec certains mouvements islamistes.
Dans l'historique, on se rend compte, et ça c'est pas nouveau, hein, on a eu des groupes terroristes d'extrême gauche que telle Action Directe, on sait que ces gens-là, pour pouvoir se former, sont allés s'entraîner dans ces pays-là, justement, auprès d'organes que vous citez, justement, pour pouvoir se rendre plus efficaces dans leurs actions.
Alors, il y a un moment donné où l'action se passe en Algérie aussi. Georges Chalinas, c'est pas faire mystère de dire que vous êtes originaire d'Algérie. Doran, c'était votre premier livre et votre père aussi. Je sais que vous y êtes retourné donc pour la première fois avec le président de la République quand il a été effectivement en Algérie. On parlait tout à l'heure de se concentrer, se vider de ses émotions pour se concentrer. Là, c'était quand même balèze, j'imagine, d'arriver à se vider de ses émotions de souvenirs d'enfance, de souvenirs parfois évidemment douloureux liés à votre père et à son travail, et en même temps de protéger le président de la République dans un des pays clairement les plus à risque du monde pour lui.
Oui, l'Algérie, c'était un retour. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, pour ma part, moi, j'ai quitté l'Algérie, j'étais tout petit, donc je n'avais aucun souvenir. Et les seuls souvenirs que j'avais, c'était les souvenirs de mes parents, ce qu'ils me racontaient, les photos que j'ai pu voir. Donc, quelque part, quand on arrive dans ce pays-là, on se retrouve... on est quand même partagé par l'émotion, parce qu'on revient sur la terre où on est né, alors que je n'ai aucun souvenir. Et j'ai eu envie, à un moment ou à un autre, aussi, d'aller voir cette Algérie, et notamment la ville d'Oran, où je suis né. Comment elle évoluait, comment les choses se passaient.
Et alors,
il y a une scène qui est racontée, c'est notamment un pèlerinage que j'ai fait tout seul au cimetière.
J'espère que ça s'est pas passé comme dans le livre. Hein.
Non, c'est encore une histoire et c'est romancé.
Encore autre chose, d'accord.
Mais je me suis servi du site sur le site, la description du site est quand même très proche de ce que j'ai vu, c'est-à-dire un cimetière qui est complètement abandonné depuis le départ.
C'est le cimetière chrétien.
Le cimetière chrétien qui est complètement détruit. Quasiment, où plus personne ne va. Et malgré tout, on a quand même des gens qui essaient de le garder. J'ai rencontré une personne âgée qui était là, un vieil Algérien qui m'a dit lui-même, il n'y a plus personne qui vient. Donc c'est désolant et ça m'a touché parce que quand je suis retourné sur la tombe de mon grand-père, de ma sœur, j'ai vu que c'était plus ce que je pensais. C'était des fosses communes, quasiment, pour certains, qui avaient été avec des corps qui avaient été regroupés. Et donc, ça a été un choc émotionnel sur lequel j'ai préféré ne pas trop en parler non plus, parce que ça m'a vraiment touché.
Ça vous a donné envie, le pays, d'y retourner après, de manière peut-être plus familiale, sans être avec le président et les...
Oui, c'est un pays j'aimerais m'attarder, parce que quand on est sur un déplacement, on a bien sûr le travail, et on a peu de minutes pour je dirais, du personnel, des moments, enfin en tout cas pour nous. Donc j'aimerais un jour ou l'autre pouvoir y retourner et repartir un peu sur l'endroit où ont grandi mes parents, mes grands-parents, et prendre un peu de temps à revoir tout ça.
Bon, on espère que vous pourrez y retourner de manière plus calme. Georges Chalinas, est-ce qu'il va y avoir une suite? Parce que je ne vais pas révéler la fin du livre. Vous disiez au début, bon, c'est une trilogie. Il y a eu Le chat d'Oran. Il y a eu le deuxième livre, Le murmure des âmes perdues. D'ailleurs, je signale que vous pouvez lire les trois ou vous pouvez acheter directement celui-là et lire directement celui-là. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres par la suite?
Je suis sur l'écriture du quatrième.
Ah, vous voyez, ça y est, il y a le virus. Bon, mais donc, vous écrivez quand? La nuit.
J'écris
quand l'Élysée dort.
Parfois un peu la nuit, mais plus souvent le week-end maintenant, à des moments où je suis libre, ou alors un peu pendant mes périodes de vacances, les quelques jours que je peux avoir de temps en temps, ça me permet d'écrire. Enfin, quand j'ai un moment, en fait, je prends le temps d'écrire, puisque pour moi c'est une passion, et donc j'adore écrire. Et donc quand j'ai le moment de le faire,
et ça fait du bien aussi. Hein.
Ça fait du bien d'écrire. Ouais. Le tout, c'est de pas quitter trop longtemps l'écriture, parce que quand on a beaucoup de travail et qu'on, c'est un peu comme un entraînement là aussi. Quand on n'écrit pas pendant un petit moment parce qu'on a eu trop de travail, on a la machine qui est un peu rouillée, il faut repartir. Donc,
on continue de s'entraîner de la même manière, Georges Chalinas, au quotidien, comme quand vous étiez un policier de la BRI, quand on est patron du GSPR.
Vous imaginez bien qu'un service comme ça est formé et a une formation exceptionnelle. Donc,
non, c'est pour savoir si vous faisiez votre jogging tous les matins avec le président. C'est ça la question derrière.
Alors ça, je le garderai pour moi.
D'accord. Je savais bien que j'allais pas réussir. Bon, dernière question quand même, on essaye. Le président a lu le livre ?
Je vais lui offrir bientôt et puis j'espère qu'il le lira. J'ai les deux premiers, je les ai offerts aussi.
Bon, eh bien voilà, on a de la chance la même manière. Donc on vous attend pour le quatrième livre, Georges Chalinas. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Par le verbe, par le glaive, c'est à lire absolument et c'est aux éditions Mareuil Édition. Merci Georges.
Merci beaucoup.
À très bientôt et on se quitte avec, je sais que vous l'aimez beaucoup aussi, la dernière chanson de Patrick Bruel, Les chaises vides, qu'il a composé pour le 7 octobre et que vous pouvez retrouver, écouter. Parce que je sais que vous êtes des dizaines de milliers, maintenant voire même des centaines de milliers à avoir écouté cette chanson. Vous pouvez la retrouver dorénavant sur toutes les plateformes. Les chaises vides, Patrick Bruel, dans quelques instants, l'info sur RCJ.
On aura beau chercher le pourquoi du comment, la vie bascule sans prévenir. Les hommes donnent ce qu'ils ont de pire. Et puis, on aura beau parler, en parler aux enfants, pour ne pas blesser la mémoire, pouvoir affronter les miroirs, il restera tout ce qu'il y avait autour d'une vie, d'une voix, de tant d'histoires d'amour. La douleur de ce jour, sans sursis ni recours, ces silences tellement sourds. Mais qu'est-ce qu'on fait des chaises vides? Celles des écoles, celles des concerts, les chaises des repas de famille, sans parler des anniversaires. Elles nous observent, les chaises vides. Elles sont d'un silence exemplaire, même si c'est que du bois aride. Nos larmes regardent et on espère. On aura beau mentir, dire que ça va passer, le chagrin glisse et nous devance, sans nous laisser la moindre chance. Et puis, on aura beau maudire ceux qui l'auront volé, l'ivresse qui coulait de leurs hanches, la beauté de leur corps qui danse, il restera ce que l'on dira d'eux, un poème, un combat, pour pas baisser les yeux. Le souvenir qu'on leur doit, comme on souffle sur un feu, pour qu'ils ne meurent pas. Mais qu'est-ce qu'on fait des chaises vides? Celles des écoles, celles des concerts, les chaises des repas de famille, sans parler des anniversaires. C'est le seul silence que j'accepte, même si c'est que du bois aride. Les larmes coulent, l'histoire se répète. Il y a aussi des chaises vides de l'autre côté de la frontière, quand elles font face aux yeux humides d'un père, d'une sœur ou d'une mère.
Elle nous obsède, les chaises vides, celles que leur vie a désertées. Ils étaient si beaux, si candides, dans cet octobre meurtrier. Elle nous obsède, les chaises vides, leur silence est triste à crever. Même si c'est que du bois aride, qu'elles nous disent qu'ils vont rentrer.
RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. RCJ 94.8 et radio-rcj.info.
Comme un printemps, comme la caresse que l'on attend, le visage rempli de lumière, un lendemain celui qu'on espère. Rien ne reste de ces ombres, ces nuits d'errance et ces matins si sombres. Loin de nos peurs, on pourra écouter les cœurs. Nous offre un horizon vers l'infini. Infini. Tu es venu comme un silence, briser les cris et les absences. Ce pays au creux de tes mains, dont je reconnais tous les parfums. Rien ne reste du voyage, à l'instant où j'ai touché ton rivage. Loin de nos peurs, apprendre à écouter les cœurs. De nos rêves, à tout ce que l'on croit. Un jour se lève à chaque instant de vie, et cette heure qui s'achève nous offre un horizon vers l'infini, un océan de liberté qui se dévoile comme un trésor de vérité à chaque page de ce livre que l'on écrit et que l'on est. Un jour se lève à chacun de nos pas, à chacun de nos rêves, ce que l'on croit. Un jour se lève à chaque instant de vie, et
s'achève, nous offre un horizon.